Vous écoutez
RMC. RMC, Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
L'intégrale foot en attendant le coup d'envoi de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1 ce soir 21h, tous les matchs en même temps avec des enjeux à tous les étages, on vous le répète, la course au titre, la course à la Ligue des Champions, la course à l'Europa League, la course au maintien, il y a des courses de tous les côtés. Ça joue également au tennis en cette fin d'après-midi, ça se passe à Rome, finale de rêve entre Djoko et Nadal, finale très très serrée avec Nadal qui est blessé. Bon, c'est une toute petite blessure Eric, mais quand même hein.
Bah, c'est les conséquences de sa chute tout à l'heure hein. Mais bon, ça n'empêche pas de délivrer un grand tennis. Et là, vraiment, on sent que les deux hommes donnent tout. Il y a 4 partout, 30-15 désormais sur le service de Novak Djokovic. Mais ce premier set, évidemment, ils le veulent. Surtout Djokovic, j'ai envie de dire, puisque je rappelle qu'hier, il a joué près de 5 heures de tennis. Donc physiquement, il peut défaillir plus vite que Rafa.
Mentalement, qu'est-ce qu'il est fort, Nadal hein. C'est un truc de fou.
4 partout, 35. Oui. Djokovic au service.
Ce sont des monstres. Deux monstres, évidemment, que Djoko et Nadal qui livrent un récital. 18h03, on va s'intéresser maintenant à la course à l'Europe. La course à la Ligue des Champions de clubs, là, un peu comme pour la course au titre. Ce sont Monaco et Nîmes qui ne sont séparés que d'un tout petit point et qui vont donc livrer bataille jusqu'à la fin de ce championnat. On va en parler avec nos envoyés spéciaux, Clément Brossard qui est à la maison au stade Louis II ce soir pour Monaco Rennes. Salut Clément.
Salut Christophe, salut à tous. Tu parlais de deux monstres, je croyais que c'était
Clément.
Pardon ?
Tu parlais de deux monstres, je me suis dit c'est peut-être
oui,
tu
oui,
parles
bah,
de,
oui,
pour des, nous lancer.
Des bébés monstres quoi.
Des monstres,
bébés dragons, oui. Voilà. Hein,
mais autant aiguisés déjà.
Et Aurélien Tiercin qui lui se trouve à Nîmes pour Nîmes-Lyon. Salut Aurélien.
Salut Christophe, et la course à la Ligue des Champions, c'est Monaco et Lyon, hein, et pas Monaco et Nîmes, évidemment. On va pas faire faux espoir aux supporters des crocos.
Ouais. Bah alors, attention, parce que les adversaires de Monaco et de Lyon, ce soir, sont également engagés dans d'autres courses. Hein. Rennes est dans la course à l'Europa League, et Nîmes est encore dans la course au maintien. Donc évidemment, ce sont des véritables matchs en jeu pour les quatre équipes qui vont livrer bataille tout à l'heure. On va commencer par cette équipe monégasque, Monaco, qui est donc troisième avec 74 points. Il pourrait même envisager de passer devant le PSG, hein, qui n'est que 2 points
pas.
Devant. Pourquoi pas, Clément. Le problème, c'est que Monaco, en cette fin de saison, a l'air un peu en bout de course, alors que les échéances sont super importantes. On rappelle qu'il y aura déjà la finale de la Coupe de France dans quelques jours. Et donc, cette fin de championnat et cette place en Ligue des Champions qui leur tend les bras depuis si longtemps. Ils sont comment, tes Monégas? Tu les sens un peu fatigués, un peu éreintés par ce qui se passe, par cette longue saison?
Un petit peu. Alors, ils ont joué ce dernier mois avec un effectif réduit, touché par la Covid, avec 6 cas positifs. Hein, Crépin Diata, c'est le dernier à revenir dans le groupe ce soir pour le match face à Rennes. Et c'est pas anodin, parce qu'on s'aperçoit que Monaco a plus de mal ces dernières semaines. Il y a eu cette défaite contre Lyon, la victoire de justesse à Angers délivrée par Ben Yedder à 10 minutes de la fin. Et la semaine dernière à Reims, victoire 1-0 avec quelques opportunités manquées. C'est moins net, c'est moins tranchant. Quand on sait que le banc apporte également 38% des buts monégasques en 2021, j'ai fait mon petit calcul ce matin, on peut faire le parallèle entre l'effectif réduit et les derniers résultats. On a l'impression que Monaco, qui était un véritable rouleau compresseur depuis janvier, commence à fatiguer. Le parcours en Coupe de France fait que les Monégasques enchaînent les matchs sur cette fin de saison. Il y a un effectif jeune avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude de disputer une saison pleine à haut niveau. Je pense à la perte Tchouaméni Fofana, qui lors des dernières semaines a eu de nombreux ballons perdus. C'était assez inhabituel. Je pense à Caio Henrique, qui n'avait pas joué pendant 6 mois avant d'arriver sur le Rocher. Je pense à Kevin Folland, qui joue quasiment tous les matchs en intégralité. Cette impression de faiblesse physique, elle n'est pas uniquement personnelle. Hein. On la partage avec quelques confrères observateurs de l'AS Monaco. Pourtant, Niko Kovac l'a démenti hier. Écoutez-le, c'est en conférence de presse.
Mon équipe est parfaitement préparée sur le plan physique afin de jouer 3 matchs de suite avec la même intensité. Il n'y a aucune crainte sur l'aspect physique. Tous les joueurs qui joueront seront capables d'avoir un impact sur le match. On l'a vu dans le passé et on le verra sur les 3 prochains matchs.
Voilà l'entraîneur qui s'appuie également sur les chiffres, sur les données data en match comme à l'entraînement, qui prouve que finalement Monaco est en bonne forme. C'est peut-être juste donc une impression. Il va falloir en tout cas tenir le rythme, alors que ce profil 3 matchs capitaux en l'espace de 8 jours.
Clément, il est obligé Kovacs de tenir ce langage-là. T'imagines qu'ils disent ouais non on gagne, mais mon groupe commence à être fatigué physiquement et tout. C'est tout t'en trouves une porte pour une contre-performance et c'est vraiment pas le moment.
Ça pourrait être de la ruse aussi, hein, dire on est un peu fatigué.
Même si Ouais, mais en tout cas, si tu dis ça par rapport à ton effectif en disant il est fatigué, mon effectif est fatigué. Honnêtement, moi je non, c'est pour moi c'est ouvrir une porte à une contre-performance de ses propres joueurs. Non, vous êtes bien les mecs, vous inquiétez pas. Même si les datas disent le contraire, il est obligé Kovacs de tenir ce discours-là, même dans le vestiaire. C'est une obligation au niveau du management.
Est-ce que financièrement parlant, la qualification pour la Ligue des Champions est capitale pour l'AS Monaco, Clément, ou c'est pas le...
Non, parce qu'il s'était fixé l'objectif de toute façon d'être en Europe, d'être européen. C'était ça vraiment. La Ligue des Champions, c'est du bonus, répète Niko Kovac et ses joueurs depuis des semaines et des mois. Et puis il y a un investisseur assez solide quand même, hein, le Russe Kibolovlev qui est là. Donc que ce soit Monaco ou Nice en Côte d'Azur, les clubs sont pas inquiets financièrement.
On a des milliardaires. Nous, sur la Côte d'Azur, qu'est-ce que vous
Il y en a pas qu'un en plus.
Non, il y en a quelques-uns. Ouais.
Non, mais après, ce serait quand même décevant pour cette équipe de Monaco parce qu'ils ont fait une belle remontada là, pour se replacer sur le podium et on les voyait pas craquer, honnêtement. Personne les a vus. Je pense qu'eux-mêmes se ne sont pas vus et je ne sais pas s'ils y croient encore à ce retour de Lyon. Franchement, dans ce match entre Monaco et Lyon, c'était incroyable de voir les Lyonnais à 10 contre 11 aller gagner ce match. Donc, je pense qu'ils le méritent, en tout cas en termes de football, depuis ce qu'ils ont montré depuis 6 à 8 mois maintenant, après un début de saison un peu plus compliqué, mais c'est normal, c'était l'arrivée de Niko Kovac, qu'il fallait qu'il prenne ses marques et que l'effectif s'habitue aussi à ses méthodes. Mais aujourd'hui, en tout cas, je suis impatient quand même de voir déjà la fin de saison, mais surtout la saison prochaine avec Niko Kovac qui aura fait peut-être un petit mercato, ça va être pas mal.
Pour toi, Monaco mérite plus la place en Ligue des Champions que
Non, il n'y a pas de
fâcher avec les supporters lyonnais quand même.
Il faut se mouiller, Kevin, vas-y.
Non, moi, j'ai dit, c'est pas une question de mérite, j'ai dit que vu le calendrier, je pense. Ouais. Tu vois, autant je suis pas sûr que Lille va finir champion, mais on verra. Mais je pense que Lyon passera devant Monaco. Je pense.
Après, il y aura ni Diop ni Jovetic dans les Monégasques.
Je pense que Lyon, quand même, a un calendrier plus favorable.
Ouais, et puis, ils n'ont pas la finale de la Coupe de France. Entre temps, quand même. Il faut dire que ça, encore au niveau du calendrier, c'est une fois très, très bien pensé par les dirigeants du football français. Voilà donc pour Monaco. L'adversaire se nomme donc Lyon, qui est en déplacement ce soir à Nîmes. Nîmes qui a encore une petite chance minime de rester en Ligue 1. Donc ils vont pas baisser les bras face à Lyon. Lyon qui, comme chaque fois en fin de saison, comme ça, quand les enjeux sont importants, est dirigé par le président qui a pris son sceptre de chef de commando, Jean-Michel Aulas, général 3 étoiles qui mène ses troupes au combat, Aurélien.
Ouais, il a même pris mieux que ça, il a pris un feutre Velleda et il a écrit l'envie supérieure de gagner dans le vestiaire des joueurs lyonnais, voilà, avec cette volonté absolue de l'emporter, de tout emporter sur son passage sur la fin de saison. Alors malheureusement, il y a eu la défaite, on s'en rappelle, contre Lille au Groupama Stadium, qui a fait très très mal parce que Lyon était à ce moment-là, avait son destin entre ses mains, et grâce à la victoire à Monaco, il reste encore une petite chance. Il faudra donc ce soir jouer à Nîmes, qui joue son maintien, les Gardois qui sont 19e. Alors on va pas énumérer les cas où Nîmes serait rétrogradé en Ligue 2 ce soir, il y en a plusieurs, mais Nîmes doit absolument l'emporter, donc il y aura une rage de vaincre du côté des Crocos. Lyon qui recevra Nice la semaine prochaine, mais tu l'as dit, ouais, Jean-Michel Aulas qui au-delà de ça s'est impliqué dans le vestiaire justement avant le match de Monaco pour dire il faut y croire, il faut continuer jusqu'au bout pour essayer de passer un petit peu outre la guéguerre Juninho, Rudy Garcia, l'entraîneur qui devrait quitter le club, et Juninho qui est une idole absolue, mais voilà, qui n'a pas encore tout à fait trouvé sa place de directeur sportif. Et puis après le président Aulas s'est aussi appuyé sur son directeur du football Vincent Ponzo qui a via un petit appel au CNOSF permis à Mathias de Chilio de jouer la semaine dernière contre Lorient, et intelligemment ils n'ont pas fait appel pour le défenseur Marcelo puisqu'il pourra jouer ce soir et non pas l'italien puisqu'il est suspendu. Bref, c'est très bien pensé sur tous les plans pour Jean-Michel Aulas qui a repris la main, et on l'espère pour lui, évidemment, que ça portera ses fruits avec ce calendrier qui est donc légèrement favorable aux Lyonnais avec ce déplacement à Nîmes et la réception de Nice la semaine prochaine.
La réception de Nice. Tiens, Clément, pendant que je tiens, est-ce que les supporters niçois vont demander, comme la dernière fois, à ce que leurs joueurs laissent le match couler de manière à défavoriser l'AS Monaco ?
Pas encore. Alors, ils sont expliqués en disant qu'ils avaient fait ça contre Lille parce que les supporters lillois sont de grands amis des supporters niçois. C'est comme ça aussi que les joueurs se sont expliqués la chose. Mais ils se concentrent déjà sur ce match ce soir face à Strasbourg, face à une équipe qui a quelque chose à jouer également, et puis essayer de terminer en beauté à domicile, là où ça a été compliqué toute la saison.
Très bien, voilà donc deux matchs à suivre avec beaucoup d'intérêt. Monaco-Rennes, on rappelle que Rennes, là aussi, hein, Kevin, Lionel, a la Ligue Europa en ligne de mire, et que Rennes avait battu Monaco, me semble-t-il, au match aller.
Tout à fait, 2-1.
2-1, et donc de l'autre côté, Nîmes-Lyon, Nîmes qui envisage.
C'est pour ça que je parlais du calendrier, parce que Monaco, ils ont quand même des matchs compliqués. Je crois que leur dernier match, c'est contre Lens, c'est ça ?
Ouais, Rennes et Lens, c'est vrai que c'est quand même compliqué.
Donc, Rennes et Lens, c'est le top 8 de la Ligue 1. C'est des équipes qui sont performantes et qui sont dans un. Alors, Lens a perdu la semaine dernière contre Lille, mais en tout cas, Rennes est dans une très très bonne dynamique. Donc, ça va être compliqué pour les Monégasques.
Lionel, tu vois comme Kevin, oui, comme Lyon Kevin, passer comme devant Monaco ?
Comme Kevin, je pense que le Rennais, ce soir, ils vont être difficiles à manœuvrer. Donc, Monaco devra absolument l'emporter. Après, il y a cette finale entre les deux. Hein, avant d'aller à Lens, tu as quand même une grosse finale qui peut t'amener un titre.
Celui qui peut t'amener des prolongations.
Qui peut t'amener plein de choses.
Je sais pas si on peut passera directement au tir au but.
Prolongation.
Ouais. Elle est quand même incroyablement mal placé cette finale.
Ouais, mais les mecs, c'est pas nouveau ça. Hein.
Non, franchement, ouais, mais là on atteint
là, c'est le pire. Là. En plus, malheureusement pour eux, c'est deux équipes qui jouent le titre ou qui jouent la Ligue des Champions.
En plus, si t'attends une semaine supplémentaire pour la finale de la Coupe de France, t'as une jauge supérieure, tu fais rentrer du public, mais non.
Rien ne va là-dedans, oui, c'est sûr. Ouais,
c'est n'importe quoi. Merci les garçons.
À ce soir, on va se régaler.
Donc, Monaco-Rennes et Lyon. Dans quelques instants, on va parler de la bagarre également pour la Ligue Europa. OM Angers et Bordeaux. Lens, Florent Germain, Nicolas Parolanci avec nous, Eric Salio, Djoko Nadal, difficile de prendre quelques longueurs d'avance dans
on
ce match.
On a dépassé l'heure de jeu et on est à 5 partout, donc c'est bien le combat de titan attendu, et ça n'a absolument rien à voir avec la finale de Roland-Garros, souvenez-vous, il y a 6 mois, puisque le premier set avait été bouclé par Nadal sur le score de 6-0, ça n'était jamais remis, Djokovic, donc là c'est vraiment le mano à mano attendu, 5 jeux partout et 15 à sur le service du Serbe, qui a failli mettre la pression tout à l'heure sur le service de Nadal. Il s'est retrouvé à 15-30, donc à 2 points. Et Nadal a sorti 3 points juste fantastiques. Ace et 2 coups droits gagnants. 5 partout.
Il y en a un autre de patron qui vient d'arriver. Le boss du foot sur RMC, Jeannot Larrecaigue, qui arrive tout de suite pour nous parler de la course au titre. Oh bah attends, le patron. J'ai lu dans l'équipe ce matin que tu étais même entré au musée.
Oui, le musée.
Oh, le musée, bah, c'est bon.
Mais parce que c'est vraiment très intéressant. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de la visiter. Ceux qui sont passionnés et de sport et de médias, et le lien entre les deux, que ce soit la presse écrite, la télé ou la radio, c'est juste magique. Donc, je vous la recommande au musée du sport à Nice à partir de mercredi prochain.
Du stade, hein,
exactement. Et c'est jusqu'au début du mois de janvier 2022.
Je vais aller t'écouter religieusement. Je vais prier en entendant la voix de Saint Jeannot. 18h15 sur RMC. Dans un instant, avant d'accueillir Jeannot pour nous parler du titre, on va s'intéresser à la course à la Ligue Europa. A tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
18h17 sur RMC, c'est un peu l'appetizer avant la grande soirée de ce soir, 21h, la dernière, avant-dernière journée plus exactement.
C'est le before.
Journée de Ligue 1, c'est le before, exactement. Il y aura l'after tout à l'heure évidemment, comme tous les jours sur RMC, mais là nous sommes dans le before, il y a du beau monde dans le before, avec Kevin Diaz, avec Lionel Charbonnier, avec nos envoyés spéciaux sur tous les terrains, avec Maître Jeannot qui vient donc d'arriver et qui se prépare pour le match de ce soir au Parc des Princes. T'es pas allé à Lille ? T'as choisi d'aller au Parc?
Non, ce soir. J'ai pas choisi du tout. Ce soir, je suis au Parc pour PSG Reims et je serai dimanche prochain à Angers pour Angers-Lille où se jouera
d'accord.
Le titre. Ah, parce que tout va jouer de la 38e. Hein.
Donc ça peut pas jouer ce soir?
Non, non.
Non, d'accord.
Enfin, j'en sais rien, mais bon, j'y crois pas. Je vois bien les deux gagner.
Ouais.
Ouais.
Bon, on va voir ça dans quelques instants puisqu'on va s'intéresser à la course au titre. En attendant, on s'intéresse à la course à l'Europe. Je suis sûr que Florent Germain préférerait intervenir dans le talk consacré à la course au titre. Oui, mais bon, Flo, ça.
Ah, qu'est-ce que tu veux, hein.
On peut pas être.
On est où on mérite d'être, hein. On est où on mérite d'être. Salut Christophe, salut à tous.
Salut. Alors, Flo, juste un tout petit instant, le tennis, Eric, il se passe des choses, ouais, à Rome.
Puisque Rafa Nadal vient de breaker Novak Djokovic.
Où il est énervé.
À 6-5, donc il va servir pour le gain du set dans quelques minutes. Petit moment de faiblesse pour le Serbe, là, je pense que physiquement, il a peut-être
comment
un
ça...
coup.
peiné
donc,
un peu.
Moment important à venir pour cette finale à Rome.
On va voir ça dans un instant. Donc, Djoko, Nadal, finale à Rome, premier set. Et break réussi par Nadal à 6 jeux à 5. Mon petit Flo, donc OM Angers ce soir. La course à l'Europe, hein, c'est ce qui intéresse évidemment l'Olympique de Marseille, cette place en Europa League. Alors, c'est vrai que cette semaine, il y a eu de bonnes nouvelles avec la finale de Coupe de France entre Paris et Monaco, qui va dégager une place supplémentaire en Europa League. Donc, a priori, s'ils ne font pas d'erreur, s'ils ne font pas les idiots, les Marseillais devraient se qualifier pour l'Europe la saison prochaine. Hein.
Bah, écoute, en tout cas, c'est presque un petit miracle déjà, après cette saison si compliquée, pleine de tensions, parfois de violences. Enfin bref, on ne va pas refaire tout l'historique de cet exercice 2020-2021, mais la saison a tellement été longue et épuisante que se retrouver à deux journées de la fin avec l'OM qui a son destin en main, tu l'as dit, pour être cinquième et donc espérer une qualification en Ligue Europa, c'était presque inespéré hein, au vu du déroulement de la saison. Donc franchement, oui, les Marseillais ont les cartes en main parce qu'ils reçoivent Angers qui n'a plus rien à jouer. Ensuite, ils vont à Metz, donc le calendrier est relativement favorable. Donc ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ce serait presque une faute professionnelle, on peut le dire, hein, des Marseillais de ne pas accrocher cette cinquième place. Donc ça passe ce soir par une victoire. Mais on a vu quand même, Christophe, des attitudes. Il y a un petit peu de tension, un peu de fatigue nerveuse ou autre à Marseille en cette fin de saison, justement parce que la saison a été longue et compliquée. Il y a eu des choix qui ont fait parler, hein, on l'a évoqué vendredi sur RMC, Sampaoli a mis à l'écart quelques joueurs, notamment Cuisance, Raoui, Germain et Rokia. Alors sur le papier, enfin au niveau compétition, ça change pas grand chose parce qu'ils ne jouaient pas, mais ça a pas plu au groupe. C'est des joueurs qui sont plutôt appréciés dans
le vestiaire. Oui, Valère Germain, il a jamais fait de mal à Sampaoli.
C'est pas lui
quoi,
qui va prendre effectivement Sampaoli à part ou se plaindre. Enfin bref, ça a un peu surpris en interne. La volonté de Sampaoli, on le répète, c'était d'avoir un groupe plus resserré à l'entraînement pour, il pense, mieux travailler, peut-être envoyer un message aussi aux autres en disant avec moi ça se passe comme ça, il faut être concerné à 100% sur un objectif pour pour être à bloc. Je pense que c'est ça l'idée.
Donner un exemple.
Il y en a qui payent pour les autres. Hein. Ouais, c'est un coup de pression, sauf que les quatre en question, ils n'ont pas joué à Saint-Étienne, tu vois. Donc c'est je pense un petit stratagème de la part de Sampaoli. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance où on sent que la fin de saison, il est grand temps qu'elle arrive. Et franchement, il faut qu'il y ait l'Europe à Marseille. On peut débattre de tout ce que vous voulez, de dire oui, mais après, quand tu veux accrocher le podium, tu te fatigues, etc. Non, la Ligue Europa, c'est des émotions souvent énormes au Vélodrome. On va tous croiser les doigts pour retrouver le public la saison prochaine. S'il y a en plus ce parfum européen, franchement, on oubliera les galères de cette saison.
Ouais, et puis ce dont tu parlais, Christophe disait que Valère Germain, il a pas fait de mal à Sampaoli. Non, mais bien sûr que non. D'ailleurs, il a pas fait de mal à grand monde, et surtout pas au filet cette année. Mais je plaisante. Mais c'est vrai que après, ça change pas grand chose pour l'effectif. C'est plus un coup de pression de l'entraîneur. Moi, je pense que Sampaoli, il veut se qualifier pour l'Europa League. Alors, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, je suis pas sûr que ce soit une catastrophe si l'OM n'est pas qualifié pour une Coupe d'Europe. Ils pourront peut-être se concentrer sur un championnat mais bon, après ça va aussi avec le palmarès de l'OM de jouer une compétition européenne, donc bien sûr que c'est du bonus.
Exactement. Alors c'est la dernière de Thauvin avec l'OM, hein, messieurs. Il faut le préciser. Il est suspendu pour le dernier match de la saison. Il a pris un carton jaune stupide à Saint-Étienne.
En vacances déjà au Mexique ou
je sais pas. Je pense qu'il partira en vacances ailleurs. Peut-être en repérage, hein, parce que il faut repérer la maison, les piscines. tu vois, hein, il faut quand même être bien sous le soleil du Mexique. Dernière de Thauvin, ce sera quand même un petit moment spécial, en plus sans public. C'est quand même une fin qui est particulière.
Il reviendra, j'espère.
Oui, il reviendra peut-être, on verra. Et concernant les compos, Christophe, je pense qu'il n'y aura pas de grosses surprises. On a pu avoir les yeux qui traînaient un petit peu vendredi lorsque Sampaoli distribue les chasubles. A priori, Mandanda dans le but. Défense, trois axios, Sakai, Alvaro, Balerdi. La tendance était que Tchaletatsar soit sur le banc. Ça aussi, ce sera un choix un peu pour montrer qu'il n'est pas content de ses performances. Sampaoli, Lirola, piston droit. Luis Enrique, ou Nagatomo, mais peut-être Luis Enrique, piston gauche. Camara, Thauvin, Rongier pour les milieux, Émilie Payet devant.
Qui tu disais qu'il n'est pas content
Tchaletatsar.
Ok. Ouais.
comme beaucoup. Hein. Ouais. C'est-à-dire que les choix de Sampaoli, ce ne sera pas uniquement, on l'espère, de mettre les quatre pauvres joueurs qu'on a cités, la Cuisance, Raoui, Germain et Roca de côté. C'est aussi peut-être de faire des choix dans sa compo d'équipe. Il n'a pas beaucoup tranché au niveau de ses compos pour le moment. Alors, il y a des joueurs qui ont été décevants pourtant, et Tchaleta Tsar en fait partie. Donc si là, il décide de le mettre sur le banc, je pense que ce serait déjà un premier petit choix pour dire qu'il faut aussi se bouger parce que lui a un peu la tête ailleurs depuis que Liverpool l'a côtoyé, l'a sondé et que l'OM ne l'a pas laissé partir.
Mais Flo, est-ce qu'il n'y a pas une certaine tension aussi de la part de Sampaoli parce qu'il se rend compte que son équipe ne maîtrise pas le jeu footballistiquement parlant, je ne parle pas mentalement. Mentalement, ils ne sont quand même pas trop mal et d'ailleurs, ils s'en sont sortis grâce au mental dans les dernières minutes. Mais au niveau du jeu, il se rend compte quand même que c'est pas ça et voilà, un peu de pression. Lui, il veut l'Europe. Moi, je pense, depuis le début, je disais qu'il fallait l'Europe pour l'OM, quoi qu'il arrive, même si c'était la petite. Est-ce qu'il n'y a pas cette tension, justement, à cause de ça, quand il fait les analyses?
En fait, je crois qu'il est en train de vivre une période qui était prévisible en arrivant comme ça, avec un groupe que lui n'a pas choisi, un groupe fatigué aussi. C'est qu'il veut mettre en place des méthodes avec une grosse exigence. Il y a beaucoup d'intensité demandée à l'entraînement, mais il est face à un groupe qui était un peu carbo déjà au mois de février et mars quand il est arrivé. Et puis, il n'a pas les hommes qu'il souhaite. Il va y avoir un mercato à Marseille qui va être un peu fou, quoi. On peut dire une dizaine de départs, une dizaine d'arrivées, quoi. En gros, peut-être un petit peu moins, mais on ne va pas être loin de ça. Et donc, en fait, Sampaoli, déjà, il joue avec un système de jeu qui ne sera pas forcément le sien la saison prochaine. Lui, il nous a confirmé que son 3-5-2 du moment, c'est le système qu'il a choisi par rapport aux hommes qu'il a à sa disposition aujourd'hui, cette saison. Donc, avec les transferts et les recrues qu'il choisira, et bien peut-être qu'il aura un autre système. Et puis, il aura des hommes plus frais. Donc, je pense qu'il est lui aussi en train de prendre son mal en patience en attendant une saison prochaine qu'il maîtrisera de bout en bout, en tout cas depuis l'été jusqu'à la fin.
Marseille-Angers à suivre donc à 21h avec Flo Germain qui nous fera vivre la dernière de Florian Thauvin au Vélodrome. Les autres matchs pour cette place européenne, Nîmes-Lyon et Bordeaux-Lens. On rappelle qu'il y a donc le quatrième de Ligue 1 qui sera qualifié pour l'Europa League, le cinquième également et la sixième place. M'a fait remarquer justement Jeannot, ce sera pour l'Europa Conférence, donc je pense qu'on préférerait jouer l'Europa League côté marseillais, Lensois et Rennais, forcément. 18h26, Eric Salio, il est fort ce Nadal, il est fort, il est très très fort.
Ouais, 1-7-0 pour Rafael Nadal et on le sentait venir, l'Espagnol beaucoup plus costaud, beaucoup plus puissant côté coup droit et donc il empoche cette première manche, 7 jeux à 5 face à un Djokovic qui... face à une montagne hein, parce que là après les 5 heures de jeu de tennis hier, je vois pas comment il peut vaincre Nadal en 3-7. Ça me paraît mission impossible. Donc 1-7-0 pour l'Espagnol.
Dans un instant, la course au titre. On y revient. Lille, Paris, Paris-Lille, Jean Baumel, Jeannot Rességuet pour évoquer les forces et les faiblesses des deux adversaires. La force, l'une des forces lilloises, c'est aussi, on l'évoque un peu moins souvent, cette défense incroyable, ces 20 clean sheets, ce gardien qui n'en finit plus d'impressionner la Ligue 1. Eh bien, on en parle avec Jean Baumel. Et puis, on va se poser aussi la question avec Jeannot de savoir si Paris n'aurait pas perdu ce titre de champion à domicile cette année, le Parc des Princes, qui n'est plus un antre magique pour le PSG. À tout de suite.
RMC Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
18h31 sur RMC, l'intégral foot consacré à cette soirée magique qui nous attend. C'est toujours un moment incroyable que ces multiplex lors des deux derniers jours, dernières journées, surtout lorsqu'il y a de l'enjeu, et de l'enjeu, il y en a donc à tous les étages. Messieurs, ça vous dit quoi, multiplex, Kevin ?
Bah écoute, c'est pas mal de souvenirs. Hein. Je me rappelle de ce multiplex mémorable entre avec Marseille et Bordeaux, le Marseille de Roland Courbis.
Ouais.
Avec ce match à Nantes et ce match au PSG, peut-être que tu y étais, Jeannot.
C'est un 99. Ouais.
Ah, c'était magnifique, hein, avec forcément la petite musique de Canal, ou alors à la radio avec RMC. C'était franchement toujours des très très beaux souvenirs. On en a vécu un super hier en Ligue 2.
Exactement.
Avec pour le coup Toulouse qui finit troisième et
avec Clermont. Quand regardez Eric Salio. Ouais.
Oui, et quand
il est arrivé à la rédac tout à l'heure en criant Malherbe.
Ouais. Non, c'est les multiplex, c'est toujours quelque chose de spectaculaire.
Lionel.
On ne peut qu'à penser à Jean-Louis Fill, quoi.
Évidemment,
Louis Fill qui était là, toujours en train de nous permettre de suivre ces matchs-là et d'avoir des soirées un peu particulières.
Oui, parce que le multiplex, t'as l'air de dire oui, c'est la télé qui l'a inventé, mais pas du tout. C'est la radio, Jeannot, qui l'a inventé.
J'ai jamais dit que c'était la télé qui l'avait inventé.
Tout premiers, c'était France Inter, et puis après, tout le monde s'est mis quoi, derrière. Mais c'est vrai que nous, à RMC, à l'époque de Radio Monte Carlo, il y avait des soirées mémorables quoi, autour de, notamment de Bernard Spendler, P.A. Sonam, quoi. Enfin, des gens qui ont eu des moments forts dans leur carrière de journaliste et qui nous ont permis à nous de pouvoir nous exprimer et d'évoluer quoi, ensuite, derrière.
Et là, ce soir, voilà, les envoyés spéciaux sur tous les stades, les mecs qui se coupent, qui annoncent les buts, moi, ça me fait frémir, ça me rappelle ma jeunesse, j'écoutais pas Jeannot quand j'étais jeune, parce qu'on a le même âge. Mais bon, presque. Lionel, un tout petit souvenir, toi aussi, multiplex.
D'après les matchs, ouais, après les matchs, pas ni avant, ni. Parce qu'avant, je faisais le
vide, surtout dans les buts, comme ça.
Ouais, exactement. Mais après les matchs, ouais, on écoutait tout de suite comment. Donc, on entendait, je pense que j'entendais Jeannot déjà, après les matchs, faire le débrief, comment ça s'était. Bon, tu vois, on avait un ou deux adversaires comme ça qu'on avait en ligne de mire, s'il y avait des blessés et tout ça. Et s'ils avaient maîtrisé leur sujet. Et on était tout de suite, on rentrait dans le bus, c'était la première chose qu'on faisait. Et l'après-match, le débrief.
Il y avait aussi les staffs.
On écoutait ça.
Enfin, il y a toujours peut-être même les. Alors peut-être que maintenant ils ont même des tablettes, mais il y a les staffs aussi qui écoutaient à la
qui
radio.
Qui écoutaient la radio, qui avaient le transistor sur le banc.
On pose la question de tout
ça. On l'a eu à Guingamp, nous.
On va être attentif au match de. Oui, par exemple, tu vois, le Paris Saint-Germain, la question a été posée à Pochettino, est-ce que vous allez être attentif au score de Lille-Saint-Etienne? Non, oui, bien sûr.
Mon œil.
Je peux te dire que lorsqu'on a fait match nul contre Guingamp et Giroud a managé, parce qu'un nul nous suffisait, parce qu'il me semble que le PSG faisait une contre-performance en 96, la radio, Giroud a managé avec le transistor à côté de l'oreille.
Je vois pas pourquoi ils n'écouteraient plus aujourd'hui alors qu'ils ont écouté pendant 30 ans. Bref, on va se régaler ce soir avec nos envoyés spéciaux donc sur les 10 terrains de cette 37e journée. Avant d'être sur le terrain, on est dans les rues de Lille avec Valentin. On a perdu Valentin Jamin, me dit-on. Bon, ben, on retrouvera Valentin Jamin tout à l'heure dans les rues de Lille. Jean Baumel est toujours là, rassurez-moi, Jean Baumel.
Je suis là.
Mon Gibou.
Je suis là.
Il est là. Il est entre
aussi plein de souvenirs de multiplex. Hein,
ouais, toi aussi.
On a fait un paquet. Hein.
Ouais, évidemment. Parce qu'avec Jean, on était quand même au tout début.
Depuis 97,
on a rejoint Jeannot, qui est là depuis un peu plus longtemps que nous. Mais enfin, ça fait quand même quelques années qu'on y est.
D'ailleurs, avant, c'était samedi soir, le multiplex, on est d'accord.
Exactement, bien sûr.
C'est bien aussi.
Souvenir incroyable du multiplex, c'est l'année où Amiens monte en Ligue 1. Je suis à Lens, incroyable. le match est terminé à Lens. Tous les supporters attendent le résultat d'Amiens qui joue à Reims. Et il y en a plein qui se retournent devant moi parce qu'ils connaissent pas. Ils me disent quoi? Ils me disent alors, j'y attendais, il y a un coup franc pour Amiens. Et je leur annonce le but de Bourgault qui met Amiens en Ligue 1. Du coup, Lens ne joue pas les barrages ou ne monte pas. Et c'est là aussi la magie de la radio parce que là, ils étaient peut-être 200 à attendre ce que j'allais leur dire. Et malheureusement, j'aurais annoncé de mauvaises nouvelles. Pour moi, Amiens et Lens, c'est ma région. Donc, c'était pas trop grave, mais en tout cas, pour les supporters lensois, ce moment de radio était un petit peu dur, mais c'est ça le multiplex.
Eh oui, il y a des moments de tristesse, des moments de joie, et on va se régaler ce soir. Alors, on est avec Jeannot et avec Jean pour parler des forces et des faiblesses des deux prétendants au titre. On va commencer par l'une des forces du LOSC cette saison. Jean, c'est sa défense, incroyable défense, meilleure défense du championnat, avec 20 clean sheets réalisés au cours de 36 journées. C'est tout simplement incroyable. Il y a un gardien de but qui tient la baraque, mais il n'est pas tout seul dans la défense lilloise. Il y a du costaud, du très costaud et du très solide.
C'est la meilleure défense du championnat, 22 buts seulement encaissés. Après, c'est vrai que c'est une défense qui, en début de saison, tergiversée, c'était sur les côtés. C'était un peu la faiblesse du LOSC. À droite, Célie qui était souvent blessé, Jérémy Pied qui l'a remplacé, des fois c'était Diallo. Ça n'allait pas trop. À gauche, entre Reynildo et Bradaric, c'était l'un et l'autre. Et puis Christophe Galtier n'arrivait pas à trouver. Puis d'un seul coup, Célie qui a retrouvé vraiment son meilleur niveau, titulaire dans la section turque. Reynildo, ça fait 4 mois qu'il est sensationnel.
C'est une révélation.
Ah oui, c'est incroyable. Il a basculé. J'en ai parlé un petit peu avec lui. J'ai eu un déclic. J'ai été vraiment encouragé par mes coéquipiers, notamment José Fonte, puisqu'il est mozambicain et il parle forcément très bien le portugais.
et un José Fonte et puis même Botman, hein, ils discutent beaucoup. Alors on discute en moitié en anglais et un petit peu en français, mais en tout cas il y a vraiment cette notion de s'aider les uns les autres. Et puis Mike Maignan qui a pris une dimension vraiment énorme, qui fait une saison complète, à qui il reste un an de contrat. On pense qu'il va partir, hein. On a annoncé sur RMC que le Milan AC était très intéressé. José Fonte est en fin de contrat, ça négocie pour qu'il prolonge. Je pense que ce serait une bonne idée parce qu'on peut pas, on peut imaginer aussi un départ de Botman. Donc attention, parce que même s'il sera peut-être champion, certainement en Ligue des Champions, bon bah voilà, il y aura quand même aussi le recrutement. Mais c'est vrai que cette défense, c'est l'idéal, ce serait de pouvoir la garder, mais ça c'est ça sera un élément très compliqué pour la suite. Mais en tout cas, franchement, c'est peut-être ça justement qui va leur permettre de tenir les deux derniers matchs, ne pas prendre de but, en mettre.
Attention,
être champion.
Moi, je mettrais un bémol, Christophe, là-dessus, c'est que quand on parle de la meilleure défense, souvent, honnêtement, moi, c'est le meilleur jeu défensif. Parce que on parle de Celic, on parle de Reinildo, qui vont beaucoup mieux, tout ça. Mais c'est aussi tout un côté. C'est tout le côté droit, par exemple, Celic plus en ce moment Arojo, qui font le travail comme il faut. Ce sont des paires à l'intérieur des couloirs, des paires à l'intérieur
avec
des lignes.
Bamba côté gauche et Reinildo.
Chez Reinildo qui se ça parle bien, il y a peu d'espace, c'est un vrai groupe. Et puis t'as aussi le premier défenseur. Si tu regardes un peu, Lille s'était mis à prendre un peu plus de buts, comme par hasard je regardais, ça coïncide aussi quand Yılmaz n'est pas là, tout simplement parce que un mec comme Yılmaz
plus défensif
mais c'est hallucinant, ouais. Quand t'as un attaquant qui défend de cette manière-là, on l'a vu avec le PSG, avec Cavani, c'est hallucinant. Cavani, c'était le meilleur défenseur. Enfin, j'ai jamais vu un défenseur comme Cavani marquer autant de buts. Tu vois, c'est aussi l'intonation. Et puis, dans le jeu offensif, ça vient aussi de Maignan. Tu vois, il faut pas oublier les extrêmes.
Les relances de Maignan.
Exactement.
On en a les intentions en tête, hein, ça relance à la main, là.
Exactement, voilà, c'est ça.
De 50 mètres.
Et ça, ça envoie des signes primordiaux aux équipes adverses. Alors, d'un côté jeu offensif, on dit ah c'est les attaquants, mais Maignan en est le principal instigateur. Et le jeu défensif, des mecs comme Yılmaz, David, les attaquants, Arojo, Bamba, tout ça, eux aussi sont vraiment des mecs hyper importants dans
le football,
tout le système
total pratiqué par oui. Los, tout le monde attaque, tout le monde défend, ça rappelle l'Ajax, hein,
mais
Kevin,
t'as pas de bonne défense comme ça,
lui faire des petits frissons, hein, Kevin. Jeannot, juste une petite question concernant Mike Maignan. On sait qu'il est en train de devenir le gardien numéro 2 de l'équipe de France.
Enfin, numéro 3 pour l'instant. Et semble-t-il, il va le rester.
Tu crois que Hugo Lloris se blesse au premier match, il met Mandanda ?
Non.
Pas sûr de ça. Hein.
Écoute, non. Moi, j'attends de voir alors à ce moment-là le fait que Didier Deschamps, et il le fera, l'évoquera avec les trois gardiens et donnera à la presse la hiérarchie. Mais j'ai des doutes sur le fait qu'il modifie la hiérarchie comme ça, là, au moment
juste
de l'Euro.
Ouais.
Alors, il va le faire tout de suite, avant les matchs de préparation, à partir du moment où une fois qu'il aura annoncé sa liste et qu'il aura réuni les joueurs à Clairefontaine, c'est là qu'éventuellement, il peut changer la hiérarchie. Pour l'instant, la hiérarchie, c'est Lloris, Mandanda et Maignan.
D'accord.
C'est ce qui s'était passé pour nous en 98, hein.
Ouais.
C'est-à-dire Barthès annoncé premier à la place de Lama.
Oui, tout
alors
à fait.
C'était Lama.
Ça a déjà eu lieu en équipe de France, dans l'histoire de l'équipe de France. Là, j'attends de voir. Quoi.
Numéro 1 après 2022, Jeannot, ou pas?
Après 2022, même à la limite,
ça va venir vite.
Même
hein.
Après l'Euro.
Peut-être dans le courant des qualifications pour la Coupe du Monde. Alors peut-être pas la phase finale de la Nation League au mois d'octobre, mais ouais. Maignan peut rentrer très vite en concurrence avec Lloris.
Ce qu'il a de meilleur que Maignan que Lloris aujourd'hui, c'est ses relances, en fait. Il a des relances incroyables.
Ce dont parlait Lionel.
Ouais, avec le pied, avec la main aussi. Ouais. Il fait des trucs avec la main. Il n'y a pas beaucoup de gardiens qui font
ça. Lloris, on parle d'un mec qui a 120 sélections.
Oui, ça reste un bon.
Après, il y a l'âge aussi.
Moi, je ne dis pas qu'il doit le sortir. Je dis juste.
Oui, sans problème là-dessus. Mais peut-être un petit. Peut-être avant. Sait-on jamais, quoi.
Mais ça doit. Excuse-moi, juste vite fait. Je pense que ça passera par une annonce de Lloris, plus qu'autre chose. Si jamais Maignan.
Oui, mais de toute façon, tout sera fait par voie de communication, d'abord en interne par le fait que Deschamps fonctionne comme ça, et ensuite auprès de la presse et donc derrière du grand public pour définir éventuellement des modifications de hiérarchie. Mais c'est pour moi pas d'actualité, quoi.
Jeannot, parlons du Paris Saint-Germain. Ça, c'est l'actualité. Le Paris Saint-Germain en mal au Parc des Princes. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce stade? A-t-il été frappé par un sorcier? C'est incroyable.
Depuis l'ère QSI, c'est la première fois qu'ils enregistrent autant de défaites dans la globalité sur une saison. Avec Tourelle, il y en a eu 4. Avec Pochettino, il y en a eu 3. Je ne parle que des défaites en Ligue 1. 4 même, pardon, pour Pochettino. Donc ça veut dire que dans la globalité, il y a eu 8 défaites en Ligue 1 pour cette saison 2020-2021. C'est une première dans l'histoire de QSI. Même à l'époque où ils perdent le titre en 2017 face à Monaco, ils n'avaient pas connu autant de défaites. Ils n'en avaient que 5 sur l'ensemble de la saison. Mais oui, après, ce qui est assez différent, c'est qu'il y a des défaites au Parc des Princes. Et puis des défaites au Parc des Princes cette saison, c'est pas comme la saison précédente où, par exemple, il y avait eu des coups réalisés par Reims, celle d'avant Guingamp, ou encore Lorient. Là, c'est Marseille qui vient gagner lors de la 3e journée. C'est Lyon qui vient gagner lors de la 14e journée. Et puis ensuite, avec Pochettino, c'est Monaco et puis Lille. Et entre les deux, il y a le coup de génie, on va dire, de Comboiré avec Nantes. Donc c'est là, en fait. Et c'est, je pense, quelque part ce qu'évoquait Kylian Mbappé après la qualification pour la finale en Coupe de France, quand il évoque un petit peu de façon dédaigneuse et peut-être maladroite en disant de toute façon, si on n'est pas champion,
mais que c'est pas, mais il vise pas Lille.
Non, mais il fait comprendre que si Paris n'est pas champion cette saison, c'est qu'ils l'auront bien voulu, malheureusement pour eux, et peut-être pas par rapport à Lille. Et quand on lit l'interview de Leonardo Jardim dans l'équipe, encore une fois, ça le conforte, où lui dit à cette époque-là, il y avait un PSG puissant et Monaco avait été énorme pour être champion. Lille, c'est vrai, a la meilleure défense, mais dans la globalité du championnat, il y a cette défaite finalement face à Nîmes à domicile qui aurait pu à un moment donné faire gamberger cette équipe de Lille. Et au travers de son parcours, Lille a été, on va dire, sur la fin beaucoup plus régulier que face au Paris Saint-Germain. D'abord, ils viennent gagner au Parc et ensuite, ils vont gagner à Lyon alors qu'ils sont menés 2-0. Ça, c'est la force, à mon sens, d'une équipe
capable d'être championne. Ils ont battu Monaco
aussi. Voilà. C'est ça, la différence, elle est là. Le PSG a lâché des points, a laissé des points au Parc des Princes.
Est-ce qu'il y a une explication, outre l'absence de supporters? Tu penses, l'absence de supporters, tout le monde l'a vécu dans tous les clubs. Est-ce que tu penses que ça a marqué plus une équipe comme le PSG?
Peut-être dans la globalité de la saison. Ça c'est peut-être même une certitude sur le fait que le Parc des Princes est capable de gronder, d'amener ce que peut faire une équipe comme Paris, comme par exemple à Marseille avec le Vélodrome, où il peut se passer des choses avec le soutien du public. Je pense que à un moment donné, j'ai souvent employé ce terme-là, je sais que ça n'a pas plu aux supporters parisiens, mais par moment il y a un petit peu de suffisance. Ils ont l'impression qu'en marquant très vite, ils ont fait l'essentiel et qu'ils sont dans la gestion. Et finalement, on se rend compte que, et un peu ces derniers temps, l'équipe de France a connu la même chose, s'ils ne mettent pas ce deuxième but, s'ils ne se libèrent pas, et notamment en Ligue 1, où ils savent que voilà, ils sont au-dessus de tout le monde, la preuve que cette saison, non, ils ne sont pas au-dessus de Lille. Et c'est peut-être ça qui fait qu'à un moment précis dans le match, il bascule de l'autre côté avec cet excès de confiance qui est un petit peu renvoyé comme dans un miroir à l'adversaire et qui réussit à faire la différence. Oui. Parce que Marseille qui gagne à Paris, c'est un Marseille très bien organisé, mais c'est pas un Marseille génial. Ouais. Lyon qui gagne à Paris, c'est bien organisé, mais c'est pas génial non plus. Donc ça veut dire quelque part...
C'était bien, Lyon c'était mieux.
Oui, c'était mieux, mais quelque part ça veut dire que l'adversaire a peut-être plus de facilité à trouver des failles dans cette équipe du Paris Saint-Germain, que ce soit avec Tourelle ou avec Pochettino, dans son antre du Parc des Princes.
Tiens, s'il y a une défaite ce soir, ce serait donc la 9e, et ce serait autant de défaites au Parc des Princes que depuis le début de l'ère Qatari en 2011. Ils sont à 9 défaites dans les 8 premières saisons, et ils en auraient autant en une saison. Ce serait quand même un chiffre incroyable. On ne va pas leur souhaiter, évidemment, de s'incliner ce soir, et a priori...
On ne sera pas dans le stade de Reims. Je sais que Dia, on lui en parle souvent de sa reprise de volée. Quand il gagne en 2019, c'était pas si loin que ça. Hein. C'était la saison précédente qui avait arrêté à cause de la Covid. Quand Reims vient faire ce coup au Parc des Princes, dans un système de jeu où ils avaient complètement piégé le PSG. Ça ne va pas être le cas ce soir, je ne pense pas.
À suivre donc ce soir la course au titre avec Jean Bemel dans le camp lillois et dans le camp parisien Jeannot Asseguier. Je ne sais pas si vous êtes dans la même catégorie de poids, les garçons. Hein, on va vous mettre sur la balance. Tiens,
je pense que je suis un petit peu plus gaillard.
Très bien.
Oh, on ne doit pas très loin, c'est Jeannot.
Ouais, mais attention, c'est le rapport taille-poids qui peut être différent.
Le rapport poids-puissance.
Oui.
Merci.
À tout à l'heure.
À 18h46, on continue évidemment d'évoquer cette avant-dernière journée de championnat dans un instant. La course au maintien. Eric Salios, en est où? Djoko Nadal?
Un 7-0 donc pour Rafael Nadal, 7 jeux à 5 dans la première manche longue de 74 minutes. Et Djokovic qui s'accroche dans le deuxième set, il mène 2 jeux à 1. Et il va peut-être se procurer une occasion de break puisqu'il est à 0-30 sur sa vis de Rafa, 15-30, puisque Rafa, dans ces cas-là, il sort le coup droit à l'assaut.
Très bien, on revient dans un instant pour la suite de l'Intégral Foot sur RMC. À tout de suite.
RMC, Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
18h48, vous êtes sur RMC, l'Intégral Foot qui se poursuit, on vous le rappelle, 21h, le coup d'envoi des 10 matchs. 10 matchs, tous intéressants, tous plus intéressants les uns que les autres. On a parlé de la course au titre, de la course à la Ligue des Champions, à l'Europa League. Allons maintenant vers le bas de ce championnat, de cette Ligue 1, avec là aussi un enjeu capital, la course au maintien. Et là aussi, il y a un paquet de monde qui est intéressé par cette course au maintien. On ne va pas parler de Dijon qui est 20e et qui est déjà condamné à descendre en Ligue 2, mais ensuite de la 19e place où se trouve Nîmes avec 35 points jusqu'à Brest. Allez, on peut monter jusqu'à Brest qui est 14e avec 40 points. Eh bien, nous avons là pas mal d'équipes qui aimeraient se sauver. Au mieux, terminer 18e, ce qui voudrait, ce qui signifierait une place de barragiste, et au mieux donc au-dessus 17, 16 et 15. Alors on a plein de matchs évidemment intéressants ce soir. On va commencer par quoi? Tiens, on va retrouver notre ami Nicolas Paolorsi qui va nous faire vivre le match entre Bordeaux et Lens. Lens qui a aussi quelque chose à jouer ce soir face à une équipe bordelaise en pleine déliquescence. Salut Nico.
Salut Christophe, salut à tous. Tu sais où je me trouve là, Christophe?
Dans une manif, sans doute, parce que t'es le roi
exactement.
Des manifs en ce moment.
Oui, c'est vrai que je suis un peu le roi des manifs. Je suis au milieu des ultras bordelais qui ont décidé une nouvelle fois d'escorter le bus et de mettre un petit peu de pression sur les joueurs. Il y a vraiment une union sacrée autour de ce match, hein, parce que l'enjeu, il est colossal pour les Girondins. Si Bordeaux gagne, on peut dire que c'est fait au niveau du maintien. Il faudra voir les résultats des équipes derrière, mais Bordeaux doit absolument s'imposer ce soir. C'est le gros enjeu de cette rencontre pour des Bordelais qui restent sur 13 défaites lors de leurs 16 derniers matchs. Autant dire que la dynamique n'est clairement pas bordelaise par rapport à des équipes comme Lorient ou comme Nantes. Donc c'est le gros enjeu du match de
mais
ce soir.
Mais ils ont 2 points d'avance quand même sur le barragiste pour l'instant. Donc finalement,
oui,
mathématiquement, ils sont les mieux placés.
Oui, mais je peux te dire que pour échanger avec les joueurs, quand on va aux conférences de presse et quand on échange avec les protagonistes, on les sent pas, tu vois. C'est pas une équipe qui est prête à faire la guerre, vraiment. Autant on entend Antoine Comboiré à côté, qui lui vraiment, on sent à son équipe qui est dans une dynamique ultra positive. C'est pas du tout le cas des Girondins. On a très peur, on a la sensation qu'ils sont épuisés par cette saison et ils ont envie que ça se termine vite. Il faut pour ça s'imposer ce soir.
Et ils affrontent donc une équipe qui joue sa place en Europa League ou en Europa Conférence. Autant dire que les Lensois seront motivés ce soir. Bordeaux-Lens, donc l'un des matchs les plus intéressants de la soirée. On suivra également la rencontre, merci Nicolas, retourne à ta manif. On suivra également la rencontre entre Nice et le Racing Club de Strasbourg. Là aussi, Strasbourg est en difficulté. 16e, 38 points, soit un de mieux seulement que Nantes, qui est donc en position de barragiste. Ça va être compliqué pour cette équipe Strasbourg. Bourgeoise. Hamza Ramani est à Nice ce soir. Salut Hamza.
Bonsoir à toutes et à tous.
Salut Hamza.
Effectivement, cette formation de Strasbourg qui est en grande difficulté. Christophe, elle reste sur 5 matchs sans victoire. C'est une première depuis près de 2 ans. 15 buts encaissés sur les 7 derniers matchs. Du coup, tout au long de la semaine, le président Marc Keller s'est d'abord entretenu avec l'entraîneur Thierry Loret. On sait la situation conflictuelle. Il a du mal à gérer, à tenir son groupe. Thierry Loret, il est en fin de contrat. Il devrait quitter le club à l'issue de cette saison. Marc Keller s'est ensuite entretenu avec des joueurs cadres avant d'accorder une interview. Un entretien à la presse locale avec toujours ce même mot d'ordre, l'unité. Et ce soir, Strasbourg a tout intérêt à avoir et à accrocher un résultat positif du côté de Nice, car lors de la dernière journée, Strasbourg affrontera Lorient pour une éventuelle finale pour le maintien. Strasbourg donc doit gagner ce soir pour s'éviter une frayeur lors de la dernière journée.
Alors l'avantage des Strasbourgeois, c'est qu'ils jouent face à une équipe qui n'a plus rien à gagner ni à perdre dans ce championnat, et on l'a vu d'ailleurs ces dernières semaines, le GC Nice. Descendons encore un peu plus vers les tréfonds de la Ligue 1 avec Lorient qui va jouer face à Metz. Enfin, normalement, Pierre-Yves Leroux, parce que les Messins sont retenus en otage, me dit-on. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Salut Pierre-Yves.
C'est pas tout à fait ça, Christophe, mais c'est vrai que c'est compliqué. Je viens d'arriver, moi, à côté de l'hôtel des Messins qui se trouve à Caudan, à quelques encablures de Lorient. C'est pas très loin. Toutes les routes sont bloquées. Il y a des manifestants de la fonderie de Bretagne qui luttent pour le maintien de leurs emplois et contre l'annonce de la vente de leur entreprise. Qui bloque depuis le début de l'après-midi les entrées et les sorties de cet hôtel où sont les Messins à la mise au vert. Et pour l'instant, ça se complique. Il y a une centaine de manifestants. Donc on va essayer de voir, ça négocie évidemment, si le bus peut quitter. C'est prévu normalement le départ du bus à 19h. On n'en est plus très loin. Donc les minutes qui viennent vont être un peu cruciales pour, pourquoi pas, la tenue de cette rencontre très importante, évidemment, pour le maintien, notamment pour les Lorientais.
Voilà, donc info à suivre évidemment. Pierre-Yves, notre reporter de guerre va rester en position jusqu'à ce que le bus des Messins soit relâché pour aller affronter Lorient, normalement 21h, mais Lorient a intérêt là aussi à gagner, puisqu'on vous le rappelle, ils sont 17e avec 38 points. Et puis on descend encore un peu plus bas avec notre ami Arnaud Valadon, qui lui va nous faire vivre le match entre Dijon et Nantes. Alors Dijon, on n'en parle même pas, hein, ils sont déjà en Ligue 2. Arnaud, en revanche, Nantes va beaucoup mieux, même si Nantes reste pour l'instant sur le strapontin, celui du barragiste. Il faudrait donc une nouvelle victoire ce soir, de manière à gagner une petite place. A priori, ça semble dans les cordes des Canaries, hein.
Et mine de rien, on descend au classement, Christophe, mais il y a de la sérénité chez les Nantais. Pourquoi ? Parce qu'on reste sur 3 victoires de suite. Il y a 3 matchs, ils étaient au fond du seau, les joueurs d'Antoine Comboiré, 19e, 28 points, 4 points de retard sur Lorient, même 3 points de retard sur Nîmes, 18e, qui était barragiste à l'époque. Et puis alors là, après Strasbourg, Brest et la victoire contre Bordeaux 3-0, ils sont métamorphosés, les Canaries. Il nous reste 2 grandes finales. Voilà les propos d'Antoine Comboiré en conférence de presse avant le match contre Dijon. Et ils savent, les Nantais, que s'ils gagnent les 2 matchs, ils seront maintenus, parce qu'il y a ce Strasbourg-Lorient de la dernière journée qui va faire que les deux équipes ne pourront pas prendre 3 points. Il a même évoqué, le coach nantais, c'est peut-être le match de l'année. Donc c'est des Nantais qui certes sont barragistes, sont dans la position avec Nîmes la moins confortable, mais mine de rien, tous les voyants sont au vert, parce qu'il y a ces succès, et avec la manière, 4 à contre Brest, 3-0 contre Bordeaux, et un calendrier favorable en jouant Dijon qui est au fond du trou avec cette relégation et qui est bon dernier de Ligue 1. Et puis derrière, il y a Montpellier. Donc voilà, les Nantais ont vraiment un très gros coup à faire dans ce multiplex et dans cette journée.
Merci Arnaud, match à suivre donc avec toi ce soir 21h. On va remercier Lionel et Kevin qui n'ont pas pu en placer une là, parce qu'ils sont très bavards, nos correspondants. Mais bon, vous aurez l'occasion de vous rattraper, les garçons.
Rattrapera.
Aucun souci.
Merci en tout
on
cas
pour ce soir.
De m'avoir accompagné. Bonne préparation, bon match.
Bonne soirée à tous. Bon
déjà dans son match, il est toujours dans son match, cette finale à Rome entre Nadal et Djoko.
Mais je me demande si je ne vais pas planter la tente dans le studio, puisque
Nadal. Je vais te faire dégager par les foot, fais gaffe.
Premier. Non, je vais rester. Je m'accrocherai. 7-5 Nadal, 4-1 Djokovic dans le deuxième set, c'est assez surprenant. Peut-être est-il plus relâché, le Serbe, mais c'est vrai que Nadal a commis quelques petites bêtises inhabituelles. Donc on se dirige, pourquoi pas, vers une troisième manche.
Eh bien, on va vivre cette troisième manche peut-être avec toi dans le RMC Sport Show qui arrive dans un instant avec Thibaut Giangrande et tous les correspondants, tous les reporters d'RMC. Bonne soirée, régalez-vous. Ce soir, 21h, le multiplex sur RMC. 10 matchs et des enjeux pareils partout. À tout à l'heure, bonne soirée.
RMC Intégral Foot.